démarrage pour 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Silab,
la radio sauvage.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Silab, il est 6h avant minuit. Si les conditions météo le permettent, c'est aussi aujourd'hui, le 7 octobre, que doit décoller la mission européenne ERA depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Avec un autre vaisseau nommé DART, ERA doit, dans le futur, assurer à ce que la NASA appelle la défense planétaire. Si un astéroïde ou une comète était amené à frapper la Terre, nous serions alors protégés de tout Armageddon. Ce 7 octobre, aujourd'hui, c'est aussi le triste premier anniversaire des attentats du 7 octobre 2023 en Israël, qui ont conduit, eux, à un Armageddon en Palestine, dont nul n'a su dévier l'orbite. Une chose est certaine, sur notre planète, les humains sont donc à l'abri des corps célestes, mais les corps humains restent encore trop souvent à la merci des êtres terrestres. Je vous laisse là-dessus, tout de suite, le flash d'Eva.
Aujourd'hui, 7 octobre, ont bien lieu les commémorations des attaques du Hamas en Israël et Aglaé va vous dire tout cela.
Un an jour pour jour, après les attaques terroristes du Hamas en Israël, le pays est fracturé. Aujourd'hui, lors d'une cérémonie officielle, Benjamin Netanyahou a déclaré « Nous sommes obligés de ramener les otages ». D'un autre côté, une foule s'est recueillie à Re'im, lieu d'accueil du festival Nova, où plus de 370 personnes ont été tuées. De nombreux autres rassemblements sont prévus en Israël. Dans le monde, les réactions sont aussi très vives. Joe Biden a par exemple annoncé dans un communiqué qu'il est totalement engagé pour la sécurité d'Israël. En France, Emmanuel Macron a lui déclaré dans une publication sur X « La douleur demeure aussi vive qu'il y a un an ». Près de 4000 personnes sont attendues au Dôme de Paris pour une cérémonie en hommage aux victimes et en soutien aux otages toujours retenus captifs. Cette série d'attaques par le Hamas, groupe terroriste palestinien, était l'occasion idéale pour l'extrême droite israélienne de justifier le lancement d'une guerre cruelle et impitoyable dans la bande de Gaza. Un an après, elle fait toujours rage en Palestine et s'étend au Liban. En un an, selon les chiffres du ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, près de 42 000 personnes sont décédées dans la bande de Gaza. En France aussi, ces attaques ont eu des conséquences. Dans les mois qui ont suivi ce 7 octobre, la haine antisémite s'est déversée sans limite. Par exemple, en août dernier, des feux ont été allumés autour de la synagogue de la Grande Motte. Selon Ouest France, 6440 personnes contre 1057 en 2023 ont constitué un dossier pour leur départ vers Israël et 70% des projets se concrétisent. Pour rappel, le bilan humain de ce 7 octobre 2023 comprend plus de 1200 morts et 251 personnes prises en otage. À ce jour, 63 otages sont encore détenus.
Merci Aglaé. L'annonce d'un ouragan de catégorie 4 résonne en Europe et en France. Kirk, cet ouragan du milieu de l'Atlantique, se dirige sur le bassin de la Manche et sur nos côtes, selon Météo France. Il est attendu que l'ouragan se dissipe en tempête avant d'arriver jusqu'à nous ce mercredi. Il est tout de même conseillé de faire attention aux rafales de vent prévues en conséquence, qui atteindront les 130 km par heure. Ce lundi, pour la première fois, un membre de la famille de l'abbé Pierre s'est exprimé. Guy Tuchère, son neveu, témoigne à France Bleu Isère, je cite, « Dans la famille, on savait que l'abbé Pierre avait des problèmes avec sa sexualité. Selon lui, sa mère, la sœur de l'accusé, était au courant que son célibat lui était insupportable. Or, Guy Tuchère assure que personne dans la famille ne connaissait la gravité des agressions sexuelles telles qu'elles ont été décrites. » Ça s'est passé la semaine dernière, dans la nuit de jeudi 3 octobre, mais il fallait bien en parler. Michel Blanc, comédien adoré des Français, est décédé. Selon son entourage, l'acteur de 72 ans est décédé des suites d'un choc anaphylactique. Une réaction allergique ayant été déclenchée par une allergie à un produit de contraste. Ce produit sert à mieux voir les vaisseaux lors d'un examen d'imagerie. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou INSERM, décrit le choc anaphylactique comme la manifestation la plus sévère d'une allergie. Encore un bond en arrière, mi-septembre dernier, Jean s'est rendu à la salle de la Cité à Rennes pour l'annonce de la programmation des Transmusicales 2024.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à la salle de la Cité.
Événement incontournable de la rentrée, jeudi 19 septembre, l'équipe des Transmusicales invitait le public à l'annonce de la programmation 2024 du fameux festival rennais. Le rendez-vous était donné à la salle de la Cité, un lieu symbolique pour les musiques à Rennes. Et c'est une salle comble qui découvre les groupes et artistes qui nous feront danser du 4 au 8 décembre prochain.
On vous souhaite d'ores et déjà de belles rencontres et belles découvertes de la programmation.
Merci à vous, merci Sonia. Yo. Vous êtes prêts? Oui, c'est bien, j'ai envie d'écouter tout ça. On va commencer par un groupe suisse, c'est un trio. C'est un disque que j'avais reçu l'année dernière par l'excellent label Bongo Joe, c'est un groupe qui s'appelle Alice. Voilà, c'est trois filles qui chantent. Voilà, il y en a deux qui jouent des claviers. On écoute Alice.
Nous marchons sur des œufs de caille que nous écrasons, mais quand même nous marchons.
On connaît très bien les Transmusicales, on y vient depuis quelques années, ouais, très éclectique, avant-gardiste, on sait jamais sur quoi on va tomber.
C'est des noms que je connais pas en fait, et j'ai rarement des mauvaises surprises.
Théo Müller, assistant de programmation des Transmusicales depuis juillet dernier, répond à nos questions.
Comment on programme aux trans?
Que ça sorte du cadre, que ce soit quand même émergent, que ce soit la première d'un live. Le slogan, c'est nouveau depuis 1979, faut que ça soit nouveau, et ça l'est. Hein. Le nombre de propositions qu'il y a cette année, où c'est tout petit, mais tu sens que ça peut devenir quelque chose de gros.
Quel groupe ou artiste tu as particulièrement hâte de voir au Trans cette année?
Je crois que le truc que j'ai le plus envie de voir, c'est Benefit, un anglais là qui hurle dans son micro. TVOD, ça va être bien aussi. Cookie, Fuckers, qu'est-ce que ça donne? Yannis and the Yo aussi sur scène. Baba Ali pour clôturer. J'ai hâte de voir le live de Crystal Mess. Mickey aussi là en chanson française. Verde Prato, j'ai envie de voir aussi sur le côté pop. Maestro Espada. Internet Girl aussi. Ça peut être un gros groupe, je pense, par exemple. Cette programmation, elle est cool à défendre. Il y en a vraiment de toutes les couleurs et les projets sont vraiment bien.
Merci Jean. Un chamboulement dans l'organigramme du Stade Rennais. Sur décision de la famille Pinault, annonce un communiqué, le club officialise le départ d'Olivier Cloarec et l'arrivée du nouveau président exécutif Arnaud Pouille. Dans ce même communiqué, l'ancien directeur général du RC Lens se dit mobilisé à 100% sur l'avenir du club. Il n'a plus qu'à y faire ses preuves. Hier, Rennes, vers 3h45, des tirs ont retenti rue Saint-Michel. Un homme pris pour cible par deux personnes cagoulées a été grièvement blessé. Nathalie Appéré, la maire de Rennes, a réagi ce matin en annonçant que cette attaque est, selon les premiers éléments, liée à la guerre de territoire entre narcotrafiquants. Face à l'augmentation de ce genre d'événements et le ras-le-bol des riverains, elle ajoute que la lutte contre le narcotrafic est une priorité absolue. Enfin, avec un peu plus de gaieté, la deuxième édition de la Gouinerie au Grand Cordel a eu lieu vendredi dernier et Jeanne était sur place.
Vendredi matin, au Grand Cordel, à Rennes, c'était plusieurs organisatrices et bénévoles qui étaient au montage d'un événement queer, et plus particulièrement lesbien. Ce week-end, c'était la deuxième édition de la Gouinerie.
On a créé l'association Gouinerie au beurre salé pour pouvoir monter un événement festif qui nous manquait à Rennes, en fait, autour des cultures lesbiennes. Moi, c'est Hélène Bertrand. Je suis co-organisatrice de l'événement La Gouinerie.
Moi, c'est Cléa Lézé. Je fais partie aussi de la team Orga de La Gouinerie. On s'est d'abord réunis parce qu'on était frustrés du peu d'espace et de possibilités d'un peu de vivre nos communautés. Et que c'est pas, en fait, seulement un événement festif, c'est vraiment un événement aussi politique, de fait, parce que on se parle des sujets dont on a besoin. Enfin, en tout cas, nous, à l'Orga, on crée une programmation en fonction de nos besoins et des besoins de la communauté.
Donc, il y a atelier, par exemple, initiation à la bagarre avec Cobra. Il y a un atelier arpentage autour d'un livre avec les guerrières qui ont une librairie ambulante. Il y a un atelier céramique. L'après-midi, il y a une table ronde sur faire justice autour du livre de Elsa Doc-Marceau. Et il y a Nous Toutes 35 qui sera avec nous aussi pour cette table ronde.
De fait, l'initiative est politique. enfin, de créer un espace pour ça, c'est politique parce qu'il n'y en a pas. En fait, il n'y a aucun espace où sont abordées les questions, par exemple, de transmisogynie dans le milieu lesbien. Il n'y a aucun espace où sont abordées les questions de racisme dans les communautés queer, etc. Donc, en fait, la démarche, elle est politique parce qu'on crée des espaces qui n'existent pas.
Et ce week-end, cet espace a été créé. Et il a abrité, le temps d'une soirée, une boum libre et flamboyante.
Merci, Jeanne.
Merci Eva pour ce flash et tout de suite tu reçois l'équipe du festival Escales Africaines.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Cheveux tirés en arrière en chignon, haut au motif géométrique, c'est Fatima Lexal, pardon, que j'ai en face de moi, fondatrice et chorégraphe de la compagnie Dounia. J'ai également à ma gauche le DJ breton avec son kawaii qui est bien prêt pour la pluie, DJ fraîche, participant au festival Escale Africaine également. Et enfin Sarah Ansari, en dentelle, rappelant aussi ses cheveux bouclés, qui est de l'équipe de programmation des Escales Africaines. Bonjour.
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 Avant d'en savoir plus sur le contenu du festival, ses objectifs, ses artistes, j'aurais une question sur le design de l'affiche qu'on retrouve sur le site de la compagnie Dounia, la compagnie organisatrice du festival. Donc cette affiche représentant une femme de couleur décorée de la, main de Fatma, pardon, et de bijoux. Est-ce que ce serait possible de nous en dire plus sur ce choix de design et sur cette affiche ?
Eh bien, c'est une affiche créée par Emma Deadly, donc Emma Morel, dont le blaze est Emma Deadly. Et elle s'est inspirée des différentes lignes qu'on lui a proposées. Donc, ça rassemble différents symboles qui évoquent la paix, la féminité, qui évoquent les femmes amazighes, mais aussi arabes. On est dans l'union, dans la paix, dans le dialogue. Et puis, il y a aussi un symbole lié, pas un clin d'œil, mais en tout cas un hommage et une forte pensée pour la Palestine. Avec le kéfié.
Maintenant, on peut parler du festival Escale Africaine, celui qui a commencé le 3 octobre dernier et qui se finira ce dimanche 13 octobre. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur qu'est-ce que c'est exactement ce festival ?
Eh bien, le festival Escale Africaine revient pour sa 5e édition à Rennes. Il a pour ambition et pour projet d'investir la ville et différents lieux culturels à travers une programmation pluriforme, donc plurilieu, pluriforme, pluralité, hérédité, transmission, nomadisme, déplacement, ouverture à l'autre, engagement, ouverture pour tous, intergénérationnel. Tels sont les différents champs lexicaux qui habillent et habitent ce festival. Donc, on retrouve des arts visuels, concerts, spectacles, performances, ateliers d'écriture, sérigraphie, discussions. Il y a toute une programmation qu'on va aborder qui est visible et il y a toute une programmation souterraine dans laquelle on va à la rencontre de différents publics, que ce soit en scolaire, en EHPAD, en centre de loisirs, pour amener cette programmation à des publics dits spécifiques.
Et donc, est-ce que vous travaillez, j'imagine, avec la ville de Rennes, mais aussi d'autres associations, par exemple, vous avez parlé d'écoles, d'EHPAD. Est-ce que avec votre compagnie aussi, Dounia, il vous arrive de partager ces moments et de créer ces événements avec d'autres associations ?
Alors oui, tout à fait. On peut considérer que le festival Escale Africaine est une extension de ce qu'aime faire la compagnie au quotidien et tout au long de l'année. Donc on fabrique des spectacles au croisement de différents médias artistiques, musique, danse, en permanence dans un dialogue et présent sur scène. Des formats musicaux, mais aussi autour de chaque projet, on invite d'autres médias artistiques comme l'écriture, le spoken word, ça peut être le graphe, etc. Et ceci s'inscrit dans des logiques territoriales, parce que quand on habite une ville, que ce soit la ville dans laquelle on vit, Rennes, et le quartier dans lequel on est au quotidien, Villejean, ou alors d'autres villes via des programmations, on aime à fabriquer et co-fabriquer avec différents partenaires. Et ces partenaires sont vraiment larges et variés. Il y a des personnes dans des structures associatives, il y a des institutionnels, il y a des programmateurs, il y a des artistes, il y a des habitants. On est vraiment, on ne, en fait, on ne, on, Avec Escale Africaine et avec la compagnie Dounia, on décloisonne et on fabrique des rencontres inattendues pour fabriquer de nouveaux récits, des récits dans lesquels on s'identifie. Et en fait, on fait la même chose, que ce soit dans le festival ou que ce soit dans les activités artistiques quotidiennes de la compagnie. Voilà.
En parlant de votre compagnie, est-ce que, en tant que chorégraphe, vous pourrez me parler un peu plus des ateliers que vous organisez concrètement, par exemple de danse, celle de chant?
Alors, tu parles des ateliers au quotidien ou étant présent pendant le festival?
Plus ceux de la compagnie, ce que vous organisez pour les spectacles dans sa globalité, pas que pour le festival.
Alors, dans la globalité, on ne va pas donner des ateliers réguliers parce qu'on ne s'inscrit pas dans le champ du cours de danse, mais plutôt dans le champ de la création. Donc, autour de chaque création et thématique, il va y avoir toute une déclinaison de ce qu'on classe sous l'action culturelle. Et où on va travailler avec des écoles, avec des jeunes, avec des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, des néophytes comme des connaisseurs, des amateurs comme des professionnels, autour de notre, de nos outils chorégraphiques qui s'inspirent directement et qui sont empreints de cette africanité, mais en dialogue avec ce qui est urbain et contemporain. Donc pour y répondre, en réalité, on n'a pas de format régulier, mais on est présent tout au long de l'année, tout autour des projets et de leur diffusion. On fabrique des rencontres éphémères à l'endroit du corps ou de la musique et aussi en dialogue avec d'autres médias artistiques.
Et oui, vous avez parlé que c'est la 5e édition cette année. Est-ce qu'il y aurait des nouveautés dans la programmation, dans l'organisation qui marque cette dernière édition?
Plein de nouveautés, vraiment plein de nouveautés. Alors déjà, c'est le comité, on va dire le collectif de programmation qui s'est enrichi de regards assez variés. Donc, et d'ailleurs, on a deux membres avec nous ce soir et ils vous en parleront certainement mieux que moi. Mais en tous les cas, plein de nouveautés, donc celle-ci en premier lieu. En second lieu, le fait qu'on pose nos valises au Maghreb, donc on fait une escale, donc on s'engage à montrer une Afrique vaste et variée dans sa pluralité, dans ce qui la fonde dans ses identités plurielles. Et à la fois une autre nouveauté dans la mesure où on a développé d'autres partenariats comme notre présence à l'UBU, le TNB, un partenariat programmation avec les Grands Soufflets et surtout une présence à l'Hôtel Pasteur. Sur un QG du festival et de manière temporaire nos bureaux qui se sont transposés là-bas et du coup qui offrent plein de possibilités et notamment l'accueil physique de deux expos autour desquels on crée d'autres rendez-vous et du coup ça fait toute une alchimie de rendez-vous autour des arts visuels donc par la photo mais traité de manière complètement différente parce qu'on a une partie de l'expo par France Terre d'Asile qui est beaucoup plus on va dire journalistique qui donne à voir des portraits dans des lieux de vie quotidien de personnes exilées et après on a une autre expo dont une des autrices est ici avec nous ce soir donc elle en parlera plus mieux que moi certainement mais en tout cas dans ma lecture on a deux mondes qui se racontent différemment puisque l'autre exposition donc Souffle Tissier est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sensible, beaucoup plus intime et du coup ça raconte encore un autre endroit et un autre récit sur les notions d'identité liées à l'héritage, etc., etc. Mais Sarah en parlera mieux que moi.
Ah, en parlant de visuel et de photographie, donc Sarah, vous m'avez dit que vous aviez été photographe et que vous faites également partie de l'équipe de programmation des escales africaines. Est-ce que vous pouvez me parler à peu près de comment s'en est venue cette programmation? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à programmer certains événements?
Alors, pour la programmation, c'est venu assez naturellement, en fait, mon intégration, on va dire, dans le collectif, parce qu'il y avait une envie commune et partagée avec les membres du collectif de programmation de donner à voir, on va dire, la diversité artistique et culturelle de l'Afrique, mais aussi du Maghreb. Donc, j'ai envie de dire que c'est des envies de programmation qui se sont croisées. Moi, j'avais envie de programmer des choses à Rennes. Et comme Fatima de la compagnie Dounia avait, on va dire, le support du festival Escale Africaine, ben, nos envies de programmation se sont rencontrées. C'était l'occasion de monter un certain nombre d'événements. Je pense notamment à la projection qui va avoir lieu au cinéma du TNB, du documentaire Raïs Not Dead, qui permet de donner à voir, enfin de faire découvrir un grand mouvement musical qui est le Raï. Donc moi j'avais envie de programmer cette série documentaire à Rennes, et plutôt que de le faire de mon côté, voilà, ça rejoignait, ça croisait aussi des intérêts communs avec Fatima, mais aussi avec Fresh autour de la musique. Donc voilà, ça s'est fait assez simplement, sur la base de valeurs et d'envie commune de monter des événements à Rennes. L'autre question, c'était, pardon.
Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous implanter dans Rennes? Non, c'est pas très grave.
Non, pas de difficulté. La difficulté, peut-être, c'est que moi, j'avais envie de programmer plein de choses. Et on en avait toutes et tous envie de faire plein de choses. Donc, c'est plutôt de faire des choix de programmation qui soient cohérents, d'avoir, voilà, comme disait Fatima, Escale Africaine cette année pose ses valises au Maghreb, avec cette volonté de faire un focus sur le Maghreb, mais tout en affirmant le fait que le Maghreb fait partie de l'Afrique, et donc en gardant cette ouverture dans la programmation aux autres pays du continent. L'Afrique, c'est 54 pays. Donc voilà, on avait cette envie-là d'affirmer l'africanité du Maghreb, mais aussi en tout cas, moi, c'était une de mes volontés de parler aussi de l'Afrique du point de vue des diasporas, c'est-à-dire des personnes de culture africaine, Maghreb compris, qui vivent en Europe, qui sont artistes et qui ont un regard aussi sur leur patrimoine culturel. Je reviens sur la projection Raïs Not Dead, parce que c'est vraiment ça, en fait, ce documentaire. Il a été co-réalisé par Hach Samir, qu'on aura la chance d'accueillir au cinéma du TNB, qui est DJ, collectionneur de CD et des vinyles, qui est voilà, un Français d'origine algérienne, et, enfin, issu de la diaspora algérienne en France, et qui porte un regard aussi intime et sensible sur ce que représente pour lui la musique raï, mais aussi qu'il le met en partage avec voilà, tous les passionnés de musique ou tous les gens qui sont plus globalement intéressés par cette culture et cette musique. Donc voilà, il y a aussi tout ça qu'on avait envie de raconter au travers de la programmation. Et puis bah, ça me permet de passer la main à DJ Fresh, peut-être pour la soirée à l'Ubu, pour la continuité sur la musique avec la soirée à Bibi Club, qu'on a pensé aussi en connexion avec la projection du documentaire.
Oui, bah, bien sûr.
Je me permets. Hein.
Non, mais permettez-vous. Donc oui, DJ Fresh, parlez-nous de cette soirée Habibi Club.
Donc pour rejoindre l'équipe, voilà, on a développé toutes nos idées avec Fatima. On a réussi à mettre en place tout ça. Le TNB et l'Ubu le même soir, c'était pas forcément gagné pour dire les difficultés. Et puis... Hach Samir est un très grand collectionneur de disques, passionné, et du coup, il est déjà résident sur Paris avec Habibi Funk. Donc pour moi, c'était vraiment cohérent musicalement d'inviter les deux. Et du coup, ils pourront nous proposer un back-to-back à l'Ubu samedi soir. Et pour ma partie, je ferai l'ouverture, je ferai un DJ set, on va dire, musique arabe. Et après, j'aurai l'occasion de présenter un live que je viens de monter. Ça sera notre première date à la maison à l'Ubu avec mon compère Dan de Module Club. Voilà, on va présenter notre premier live de ce projet commun. Ça sera nos sons, nos productions et machine et DJ avec un petit peu de scratch et machine en live. Voilà.
Ok. Et ben, ce festival donc est bien centré sur les communautés africaines, comme vous avez dit, sur le Maghreb et sur le monde de l'art de ces communautés. Et j'aimerais vous demander, en cette cinquième édition qui est réalisée donc 12 ans après la première, avez-vous pour l'instant rencontré cette année un public rennais donc plus ouvert aux disciplines et à l'art venant d'outre-mer?
Alors déjà, j'aimerais revenir sur la notion de communauté. En fait, pour moi, la notion de communauté, elle pourrait être un petit peu galvaudée. Donc, okay. On peut faire communauté tous ensemble. Nous, on n'a pas d'ambition à rassembler une certaine communauté, mais de mettre en partage avec l'ensemble des communautés. Donc je voulais juste préciser ça. Après, franchement, en termes de public, il n'y a pas vraiment de... Je ne comprends pas très bien l'essence de la question, pardon. Des publics d'outre-mer. En tout cas, je peux dire que le festival a démarré jeudi 3 octobre.
Oui.
Et que
Jusqu'alors, les expos sont ouvertes et qu'il y a une trentaine de visites par jour, qu'on a fait une bonne réussite, qu'il y a eu plusieurs rendez-vous. Donc jeudi, il y avait le vernissage, le lancement du festival à Pasteur, avec vraiment une grande variété de personnes, mais vraiment en tout point, que ce soit des CSP, des métiers, des artistes, des non-artistes, des personnes qui venaient pour la première fois à Pasteur, des personnes qui venaient pour la première fois aussi aux expos. Donc on a rassemblé, nous, nos différents réseaux, les uns les autres, plus plein de curieux. Et il s'avère que depuis jeudi et cette fameuse ouverture, on a à peu près des passages très réguliers au niveau des expos. On a deux médiatrices qui sont installées en permanence là-bas pour accueillir le public. Que vendredi, il y a eu deux classes de collège. Et ensuite, on a eu des jeunes du quartier de Villejean qui sont venus avec des éducateurs pour à la fois visiter les expos, visiter le lieu, mais bénéficier aussi d'ateliers de sérigraphie avec Mehdi Boubocar. Moi, j'y étais tout à l'heure à Pasteur, on a eu encore du passage assez régulier. Et vraiment, on est en train de mener notre petite enquête. Donc, on a un petit questionnaire et tout. On essaye d'identifier un petit peu quelles sont les personnes. Parce que pour nous, ça, c'est nouveau, pour le coup, d'accueillir des expos. D'avoir ce dispositif, un espace physique où on peut accueillir les personnes et du coup, boire un thé, discuter et puis imaginer des formats différents. Mais en tous les cas, là, je sens plutôt un très bel accueil. Beaucoup d'intérêt, et ceci, quels que soient les âges et quelles que soient les pratiques. Les artistes aussi de Rennes sont plutôt emballés. Samedi, on a accueilli à Rome la nouvelle création de Franco avec le engrenage. Il y a eu plus d'une centaine de personnes dans les coursives de Pasteur. Donc voilà, nous on attend encore le meilleur. On espère, on est plutôt pas mal parti pour la soirée Habibi Club. Donc je crois qu'il y a des places à gagner. Donc. Dépêchez-vous parce que ça part vite et les early birds sont bientôt épuisés. Et puis une grosse fête de clôture le dimanche qui a pour vocation de rassembler vraiment tout le monde, mais en donnant une place particulière à la famille parce qu'on est convaincu que l'art se vit à tous les âges.
Merci beaucoup d'être venu ici sur notre plateau.
Merci à vous trois. Donc on le rappelle, effectivement, deux places à gagner. Ça se passe sur le site de SILAB. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et Escales Africaines, c'est jusqu'au 13 octobre, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Le 13 octobre, grande fête de clôture à la maison de quartier de Villejean, avec d'ailleurs pour les familles un dispositif de garde pour les enfants, pour permettre aux parents de venir s'éclater et transpirer.
Eh bien, c'est dit, tous les parents qui écoutent SILAB et 6 heures avant minuit, vous savez que vous pouvez venir à Escales Africaines.
6 heures avant minuit.
Sur TikTok, les discours d'Adolf Hitler se sont transformés en trend, Cyriane. Qu'est-ce qui se passe?
Eh oui, en effet, Louise. C'est dans un rapport publié à la mi-septembre par l'ONG américaine Media Matters qui fait état d'une prolifération de vidéos de discours d'Adolf Hitler. Traduit en anglais et prononcé par une voix produite en intelligence artificielle, ils sont viraux sur TikTok. La viralité spécifique à l'application reposant sur le réemploi d'audio. Les publications contenant les discours d'Hitler s'élèveraient à plus de 70 000. Les likes, quant à eux, toutes vidéos confondues, à plus de 21 millions, selon Sky News, un média britannique. L'un des audios les plus populaires est un extrait du discours de propagande prononcé en 1939 par le Führer devant le Reichstag. Texte dans lequel il appelle à l'extermination des Juifs, en partie. En fond, une musique populaire sur l'application chinoise. On y laisse entendre qu'en fait, Hitler, c'était un grand pacifiste, qu'il aurait tout fait pour négocier avec les autres puissances, pour ne pas bombarder certaines régions ou encore pour protéger les populations. À l'image, un rectangle blanc avec l'inscription « Just listen », écoutez juste en français. En dessous, une photo en noir et blanc, laissant apparaître sur un fond gris la silhouette d'Hitler, de côté, uniforme et casquette nazie sur la tête. On ne peut pas voir son visage, permettant de ne pas se faire censurer par l'algorithme TikTok.
You know, I didn't do that for months. I didn't drop a bomb on Paris. I asked for surrender 5 times before we attacked Warsaw. Everything was refused. I asked that the women and children be sent out of the...
À ce type d'extrait audio s'ajoutent d'autres formats, comme celui des édits ou des photos à défiler, sur lesquelles sont inscrites des citations comme « Dieu sait que je voulais la paix », signé AH, les initiales d'Adolf Hitler. Régulièrement, des phrases du style « Peut-être qu'il n'était pas vraiment le vilain de l'histoire, en fait, c'était un héros » sont commentées par des internautes sous les posts. Mais comment ces vidéos, images et extraits audio arrivent-ils à sévir sur TikTok? Eh bien, plusieurs stratagèmes sont mis en place pour esquiver la modération, à commencer par le nom d'Hitler. Il est remplacé par des surnoms comme le grand peintre autrichien ou encore des émojis à l'image de deux éclairs formant le symbole SS. Concernant l'audio, les mots comme « juif » ne sont jamais diffusés. Les discours de propagande utilisés portant surtout sur les stratégies guerrières du chancelier ou sur sa vision de la culture européenne qui serait en déclin.
The decline of our culture, these mounds of contamination of our entire cultural life, the decomposition of our literature, the poisoning of our theater, of our movie theaters, all the art is now falling for it. Millions of...
Permis par l'IA, ce n'est pas pour rien que ces contenus révisionnistes, ne donnant aucun contexte historique et tendant à minimiser la Shoah et les actes d'Adolf Hitler, pullulent sur la plateforme. Ils s'inscrivent dans la stratégie de l'extrême droite d'utiliser cette application et cette technologie pour diffuser leurs idées.
C'est d'autant plus inquiétant que 40% des visiteurs quotidiens de TikTok sont dans la tranche 15-24 ans, Cyriane.
Et oui, ce sont les plus visés par ces contenus, parce qu'il faut bien recruter des gens.
C'est donc toi qui as entre 15 et 24 ans et qui regarde TikTok, fais attention à ce que tu regardes sur TikTok. C'était la chronique Fake News et c'est tous les lundis.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Allô ? Il y a quelqu'un au bout du fil ? Je vous entends pas. Je comprends pas. Un petit jingle. Oh bah il n'y a plus de jingle non plus. Non bah c'était juste...
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Oui, c'était juste pour vous dire que si vous avez un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous dont vous voulez nous faire part, une déclaration d'amour peut-être, ou un coup de gueule, sinon un retour sur nos reportages, eh bien laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à Dan pour la technique. Et quant à nous, tous et toutes, on vous dit à demain soir, 18h.
Demain.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.